Bonjour et bienvenue sur Esprit Occitanie. Lucille de la Morena pour l'émission Trouver sa voix. Aujourd'hui, dans l'émission Trouver sa voix, je vous l'avais promis dans la précédente émission, nous allons parler d'un des métiers où la voix a une place toute particulière. C'est le métier de comédien ou comédienne. Pour en parler avec moi, j'ai le plaisir d'être accompagnée par le talentueux Johan Villepastour. Johan, bonjour et merci d'être avec nous et d'avoir accepté mon invitation.
Bonjour.
Avant de parler de vous, de votre métier et votre rapport à la voix, je me permets une petite introduction. Le métier de comédien, comédienne, acteur, actrice est souvent un métier qui fait rêver, mais la réalité est pourtant bien plus complexe. Trouver sa place dans un milieu plutôt précaire, où se construire un réseau est primordial et où la compétition ne se fait pas forcément sentir mais est bel et bien présente, n'est pas chose aisée. Et souvent, seuls les plus persévérants et persévérantes parviennent à vivre de leur passion. Chaque comédien, comédienne a sa voix, sa sensibilité, sa personnalité unique et sa propre manière de jouer. Il ou elle est capable de faire passer des messages, des sentiments et des émotions grâce à son corps et sa voix. Le jeu du comédien ou de la comédienne est essentiel pour donner vie au texte et aux situations. Avec cet ensemble, il ou elle compose son interprétation. Il s'agit non seulement de pouvoir nous faire entendre et comprendre, mais aussi de transmettre et faire vivre une émotion. C'est à ce moment seulement que l'on touche à un véritable travail d'acteur ou actrice. Il y a donc deux aspects essentiels, je dirais. D'une part, l'aspect technique et physiologique de la voix, et d'autre part, l'aspect émotionnel de ce que l'artiste vit et transmet. Pour en savoir plus, nous recevons Johan Villepastour. Johan, vous êtes comédien de théâtre-cinéma. On aura pu vous voir dans de nombreuses créations du Grenier, comme Le Bourgeois Gentilhomme, Cyrano de Bergerac, Lucrèce Borgia ou plus récemment Le Voyage de Monsieur Perrichon. Encore plus récemment dans Jason M. Médée avec La Compagnie Vorace. Des créations aussi comme Rouge Noir et Ignorant ou Quito Longue Tardé avec Le Théâtre du Rocher, Le Tartuffe mis en scène par Gwenaëlle Morin. Je ne cite pas tout, mais il y en a bien d'autres. Vous êtes aussi professeur de théâtre, vous êtes musicien un peu, vous vous essayez à la photo. Vous êtes auteur, dramaturge, est-ce que j'en oublie ?
Non, ça va, je crois qu'il y a tout.
C'est bien complet. Pour les personnes qui nous écoutent et que ça intéresserait, comment est-ce qu'on devient acteur ou actrice ?
Ça peut partir de rien du tout. Ça peut partir d'un élan dans une journée ou, je ne sais pas, un accident qui vous a lancé à être comédien ou comédienne. Moi personnellement, c'est plus une histoire de jeu. Je pense que ouais, ce qui m'amusait avant tout dans le métier de comédien, c'était de pouvoir un peu dérouter le réel, enfin s'amuser avec la réalité, puisque des fois c'est pas très très amusant ce qui se passe en dehors. Ben là, on a l'occasion de le transformer comme on a envie, s'amuser avec. Donc ouais, je crois que c'est avant tout, moi, c'est le jeu qui m'a poussé à devenir comédien. Le vrai jeu. Le jeu.
À la manière d'un enfant qui joue, qui crée des situations.
Et exactement, voilà, c'est ça. Okay.
Et il y a des formations pour le faire ou pas forcément ou...
Bah, oui, il y a. Je pense que c'est un peu comme tout. On peut être autodidacte et décider d'apprendre par soi-même le jeu. De toute façon, jouer la comédie, je pense que tout le monde l'a un peu en soi. C'est pas une si grande vocation que ça, c'est aussi un élan. Donc on peut très bien le faire de soi-même ou alors on peut l'apprendre. Et effectivement, il y a des tas de formations qui l'apprennent, il y a des tas d'écoles, le conservatoire, des écoles privées. Sur Toulouse, il y a l'EDA, l'école de l'acteur, il y a une formation aussi au hangar. Enfin voilà, il y a plein de formations différentes, mais on n'est pas obligé de suivre une formation scolaire pour apprendre à être comédien ou comédienne.
Très bien. On a parlé du fait que vous étiez acteur théâtre et cinéma. Est-ce une voix différente que l'on utilise en théâtre et en cinéma ?
Oui. Oui, c'est-à-dire que c'est une voix, je pense, c'est par rapport à moi. Hein. Je dis ça selon moi. Une voix au cinéma, c'est quelque chose de plutôt... plutôt retenu, un petit peu intime, parce qu'il y a plein de façons de pouvoir mettre en exergue le jeu du comédien ou de la comédienne, qui sont les plans, les champs contre champs, les zooms, la lumière. Enfin, il y a plein de médias possibles avec le cinéma qui permettent au comédien ou à la comédienne d'utiliser une voix très très proche de lui ou d'elle. Au théâtre, c'est pas la même chose, parce que au théâtre, il y a juste un plan, et souvent assez éloigné des spectateurs et spectatrices. Donc du coup, quand on est sur scène, on a besoin d'une voix un petit peu plus tenue. C'est une histoire d'énergie, selon moi. C'est comment arriver à ce que sa voix puisse passer le quatrième mur, qu'il existe ou pas d'ailleurs. Parce que certains metteurs en scène ou metteuses en scène diront qu'il n'y a pas de quatrième mur au théâtre, mais c'est tout à fait vrai et c'est tout à fait faux aussi. Mais seulement, il y a une distance entre le public et le jeu scénique. Donc il faut une voix qui soit juste tenue, pas criée, hein, pas besoin de mettre beaucoup de force dans sa voix, c'est juste tenue.
L'idée, c'est que au théâtre, c'est le comédien avec sa voix qui va chercher le spectateur. Et au cinéma, c'est la caméra qui vient chercher.
Qui vient chercher l'acteur et l'actrice. Oui, c'est un peu ça. Et du coup, c'est vrai qu'au théâtre, on a tous en tête, tous et toutes, l'image d'un acteur ou d'une actrice grandiloquente. Parce qu'effectivement, on pousse un peu tout. Mais c'est juste pour que ça parvienne. Parce que sinon, ça paraît un peu plat. C'est comme si l'image en 3D qu'on avait devant nous, elle n'était plus qu'en 2D. Parce que la voix...
D'accord. Est-ce que il y a des techniques vocales primordiales à acquérir, du coup ?
Oui, ouais, oui, oui, non, oui, oui, il y a des techniques.
Quelles sont-elles, du coup ?
Toujours selon moi, je pense que c'est comme l'émission, c'est trouver sa voix, mais enfin c'est retrouver sa propre voix. C'est ce qui est pas toujours facile, parce que quand on joue des émotions, des sentiments ou des situations, ou même ne serait-ce qu'un texte, on a tout de suite tendance à y mettre nos propres appréciations. Et il se trouve que ça fait transformer et notre corps et notre voix.
Des représentations qu'on
fait. Oui, des représentations. J'en sais rien, si je prends un exemple, mais un personnage qui va être un petit peu... si on prend Iago dans Othello, un personnage qui est plutôt sournois, machiavélique, on va avoir tendance, après quelques répliques de lecture, à se dire « Ah oui, d'accord, je vois un peu comment il peut être », et on va essayer de transformer sa voix en essayant d'en faire quelque chose d'un petit peu plus peut-être nasillard ou... Voilà. Et on va vite transformer sa voix au point de l'amener un peu trop loin de nous-mêmes. Je pense pas qu'il y ait de règles avec la voix. On peut faire ce qu'on veut. On peut s'amuser dans tous les sens, la transformer dans tous les sens. Mais selon moi, si on fabrique trop quelque chose qui n'est pas assez proche de nous, on finit par se perdre et en faire... plus que quelque chose de mécanique et d'un peu froid. Même d'ailleurs, on peut facilement s'abîmer la voix en poussant trop sur les cordes vocales, en étant trop tendu. C'est une question de bien savoir la placer. Et pour ça, c'est de la respiration.
Partir de son propre souffle.
Oui, partir de son propre souffle. Moi, personnellement, je sais que souvent, avant de jouer, je chante. C'est pas pour me chauffer les cordes vocales, mais c'est juste pour replacer ma voix. Parce que des fois, parce que la journée était trop stressante ou parce qu'il s'est passé tellement de trucs dans notre journée que on a la voix un petit peu haut placée et un peu fébrile parce que on est tendu, stressé. Et chanter, ça permet de redescendre un peu. C'est bien si la voix elle est placée dans le ventre plutôt que dans les poumons ou dans les cordes vocales. C'est un endroit qui est plutôt stable, plutôt puissant et présent, ancré. Et détendu et ancré, oui.
En Commedia dell'arte, des types de voix, des accents permettaient d'identifier les personnages. Alors, quel rapport on a à ces accents aujourd'hui ?
plus aucun, je pense. avec la Commedia dell'arte, moi, je suis pas un spécialiste, mais effectivement, il y avait des voix empruntées. Comme tout à l'heure, ce que je disais, des espèces de voix archétypales de personnages, mais c'était dû au fait que le masque en lui-même a une telle profondeur, une telle puissance que si on utilise sa propre voix, ça paraît très vite, ça fonctionne pas. En fait, on a vraiment l'impression d'un corps derrière un masque.
On n'a plus le personnage.
Le masque et l'acteur ou l'actrice se dissocient véritablement. On entend quelqu'un derrière un masque en train de dire un texte. C'est pour ça que très souvent on utilise des voix qui sont disons plus caricaturales, mais c'est parce que c'est pour qu'elles collent mieux au masque. C'est sinon pareil, une fois de plus tout devient très très plat, très très vide. Le masque, ça demande une puissance un peu particulière, quelque chose d'un peu plus extraordinaire que le quotidien.
Et donc aujourd'hui, sans masque, plus besoin d'accent ?
Non, c'est pas, non, pas du tout. Non, on peut faire des tas d'accents. On peut faire des tas d'accents dans tous les sens. C'est en fait, bah, tout ça, ça dépend surtout de la façon dont t'es mise en pièce, dont t'es mise en scène la pièce. En règle générale, dans le théâtre contemporain actuellement, c'est pas trop utilisé. On est plutôt sur un jeu, comment dire, très, je dirais pas neutre, mais disons. Très nettoyé, très épuré de n'importe quelle scorie, de n'importe quel archétype justement aux caricatures. Mais tout le monde ne travaille pas comme ça. Donc on retrouve aussi des accents prêtés, empruntés à je ne sais pas quel type de masque ou empruntés à je ne sais pas quel type de théâtre. Mais si, on en retrouve, oui.
Les accents ne disparaissent pas totalement. Quand vous jouez, vous êtes l'instrument. Vous jouez à la fois avec votre corps et votre voix. Comment on articule le fait de donner corps et voix pour interpréter un personnage ?
Le fait de trouver le corps du personnage, très souvent, ça demande un exercice un peu physique, quand même. On va déformer notre corps en plaçant, je sais pas, son épaule un peu tordue. On va essayer de trouver une démarche, donc marcher pendant un moment avec, de courir. Enfin, en trouvant un corps pour un personnage. Si on travaille comme ça, hein, encore une fois, tout le monde ne travaille pas comme ça.
Il y a plein de manières de mettre en scène un spectacle.
Complètement. Et plein de registres de jeux différents également. Mais en tout cas, si on travaille avec son corps de base, on va s'essouffler. Et de par la respiration de l'exercice, on va finir par justement trouver une voix qui correspond. Alors, est-ce qu'elle va descendre plus dans les graves ou est-ce qu'elle va être plus dans les aigus parce que le personnage est un petit peu plus vif et un peu plus stressé, je ne sais pas. Ça va dépendre de l'épuisement. C'est vrai que notre voix correspond assez bien comment dire, notre voix trouve assez bien son chemin avec le corps.
Pour vous, c'est plus simple de partir du corps pour trouver la voix ?
Oui. Oui, mais enfin, c'est pas que c'est plus simple, c'est que c'est moins volontaire. Parce qu'on cherchait la voix d'abord, justement, à cause de toutes les images qu'on a dans la tête, de tous les personnages qu'on a pu voir dans tous les dessins animés, tous les films, de KPTP et autres encore, je sais pas, mais enfin, tous les archétypes de voix qu'on peut avoir dans la tête, on va vite coller quelque chose qui est notre propre interprétation. Du personnage et pas se laisser surprendre, se laisser avoir par ce qu'on pourrait découvrir de par l'exercice physique.
Donc quand on cherche la voix du personnage que l'on interprète, ça part de soi ?
Oui.
Je pense à Jason M. Médé, où pour résumer rapidement, il y a quelque chose de très corporel dans les parties où vous êtes Jason et Médé. Et quelque chose de beaucoup plus naturel, je dirais, pour utiliser un mot qu'il faut utiliser, de beaucoup plus naturel quand vous êtes Johan et Louise. Donc les voix changent.
Oui.
Ça vient quand même de soi.
Oui, bien sûr, ça vient de soi. Mais de toute façon, selon moi, au théâtre, c'est quand même difficile d'arriver à faire sortir quelque chose qui ne vient pas de soi. Je pense à une phrase... D'un de mes professeurs de théâtre qui disait en fait pour lui y a jouer faux, c'est mettre quelque chose à l'extérieur qu'on n'a pas à l'intérieur, parce qu'en fait il n'y a pas de véritable façon de jouer, il n'y a pas une façon vraie de jouer, il n'y a pas une façon vraie d'utiliser sa voix ni une vraie façon d'utiliser son corps. On peut tout essayer dans tous les sens, surjouer, on peut, et pour autant ne pas être faux. Ça dépend juste de ce qu'on a à l'intérieur, de quelle énergie on a à l'intérieur et quelle énergie on déploie. Et du coup, peu importe l'utilisation de la voix sur scène, si on la transforme, les effets qu'on met dessus, si c'est quelque chose qui nous amuse, donc qui vient de nous, si c'est un jeu avec nous-mêmes, de toute façon, on sera pas faux, on va pas s'épuiser parce que ça viendra de nous. Quoi qu'il se passe, ça viendra de nous.
Je vous propose maintenant de faire une petite pause musicale, musique que j'ai demandé à notre invité de choisir. Je peux vous demander pourquoi ce choix ?
Il y a plein de raisons, mais c'est déjà parce que j'aime beaucoup la chanson, j'aime beaucoup la voix de Félixita. Et c'est aussi en fait quand vous m'avez proposé de faire l'émission, vous m'avez demandé du coup de une chanson et je me suis dit, bon je vais
voix qui vous touche.
Une voix qui me touche, c'est ça. Et alors j'ai pensé à des tas de choses mais qu'on trouve plutôt dans l'opéra. Et je me suis dit, oh ben voilà, encore une émission culturelle, on va encore mettre l'opéra en avant sur la voix. Et je me suis dit, non, allez, ça serait bien d'aller chercher ailleurs quelque chose dans une autre culture.
Eh bien, on écoute Félixita, Nu Nuage.
Droit dans les yeux, il me dit vous. Sur la 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 la, j'ai ma mise à genoux. Je veux oser envie de fou. Et les nuages sont jaloux.
C'était Félixita Nu Nuage et je poursuis mon émission en compagnie de Johan Villepastour. Est-ce que pour être vrai, ou avoir l'air vrai du moins, dans vos métiers, il faut ressentir les émotions intérieurement pour pouvoir les transmettre.
Non. Non, c'est pas nécessaire. C'est-à-dire que au théâtre, il y a beaucoup de choses qui sont données, beaucoup d'informations qui sont données en même temps. Et en fait, on n'a pas spécialement besoin de ressentir ce qu'on est en train de jouer pour donner le sentiment au public. Même d'ailleurs, selon moi, je pense que c'est intéressant de justement essayer de pas trop rentrer dans le sentiment et trop essayer de ressentir ce qu'on est en train de jouer, parce que j'aime bien l'idée qu'il y a qu'un seul sentiment dans une salle de théâtre, qu'un seul exemplaire de chaque sentiment dans une salle de théâtre, et que si on le prend, on le prend à la place du public. Donc si on se met à pleurer trop sur scène, le public ne pleurera pas. Si on se met à trop rire sur scène, le public ne rira pas. Et du coup, c'est bien d'être assez détaché de ce qu'on est en train de jouer sur scène, de ne pas rentrer en tant que ça dans le sentiment et d'essayer de le vivre complètement. C'est bien d'être un peu détaché, de pouvoir en jouer.
Comment on les transmet, pour le coup, ces émotions ?
Mais ça, c'est un peu aléatoire. C'est-à-dire que si j'avais la solution, je serais très heureux. Mais c'est un peu la grande question qu'on se pose un peu tous les soirs quand on est en train de jouer. C'est est-ce que je vais réussir à toucher ou non les spectateurs et spectatrices? C'est un peu compliqué. Je sais pas trop comment on transmet. C'est avant tout, justement, ne pas se poser la question. Et essayer d'être le plus à l'écoute possible de ce qui est en train de se passer et d'être le plus au présent possible. Je dirais que il faut essayer de laisser le temps. De laisser le temps aux spectateurs et aux spectatrices d'écouter. De pas avoir peur, en fait, de pas avoir peur de ce qu'on fait et d'être pleinement dans ce qu'on fait plutôt que dans justement se demander si le public est bien en train de recevoir ce qu'on est en train de vivre ou jouer.
Donc on est quand même un peu dans son émotion.
On est un peu dans son émotion. Non mais en fait, c'est pareil, hein. De toute façon, il y a des millions de façons de faire du théâtre, donc on peut être à fond dans l'émotion ou pas. Moi, selon moi, j'aime bien voir des gens sur scène qui, pendant qu'ils sont en train de jouer quelque chose, ont toujours un pied de recul en arrière pour dire « Salut, c'est moi, je suis en train de m'amuser à jouer ça ». Et ça me touche d'autant plus que je suis pas dupe du fait que je suis au théâtre et qu'il y a des gens devant moi qui jouent. Donc si on essaie de me faire croire que la personne s'est totalement enfermée dans son rôle et qu'elle est totalement rentrée dedans et qu'elle tout le reste a disparu, qu'on n'est plus là, que je vais pas y croire. Je me dis juste, il y a quelqu'un qui se force à ressentir des grosses émotions, mais j'y crois moins. Et comme j'y crois moins, mais du coup, je suis moins touché.
D'accord. Qu'est-ce qu'un metteur en scène peut demander pour modifier la voix ? Est-ce que vous avez des exemples d'indications claires, par exemple ?
oui, j'ai quelques indications claires de metteur en scène ou de metteuse en scène. Ce qu'ils peuvent demander pour modifier la voix, ils vont dire en règle générale des trucs du style descends plus dans tes graves, va plus dans les aigus, ou ouvre la fin de tes phrases, ferme la fin de tes phrases. Ça, c'est des indications très claires, mais ça, en tout cas pour ce qui est du jeu, ça aide pas beaucoup. Non, en règle générale, c'est un peu le bordel quand même dans les indications. c'est pas toujours très, ça aide pas beaucoup quand même les indications. Mais
vous n'avez pas le même vocabulaire pour parler de la voix.
Oui, bah déjà on n'a pas le même vocabulaire et puis c'est très compliqué. Hein. La discussion entre metteur en scène, metteuse en scène et comédien comédienne, elle est compliquée parce que on demande à quelqu'un de ressentir des choses à l'intérieur de lui, mais c'est quelqu'un à l'extérieur de lui qui lui demande. Donc c'est chacun est dans son monde,
chacun a sa propre perception.
Voilà, chacun a sa propre perception, chacun a sa propre énergie et du coup c'est toujours très difficile de faire coïncider les deux. Mais c'est des essais en fait surtout, plus que des indications ou des discussions, c'est en fait on va faire la scène, on va la refaire jusqu'à ce qu'un moment, en fait on chope pas exactement la façon dont le metteur en scène ou la metteuse en scène veut qu'on joue, mais on chope une énergie. Et ça se sent un peu dans la salle quand on est en train de répéter, ça sent un peu que là on a trouvé quelque chose. Et c'est de cette énergie que on va continuer à travailler, et ainsi
de
suite.
Ça fait partie du travail de répétition, d'aller chercher des choses, voir ce qui fonctionne ou pas.
Oui, oui, complètement. Parce que ça, en fait, on pourrait penser que les répétitions, ça sert à fixer les choses. Disons que ça sert plutôt à créer des chemins solides, pas à fixer véritablement la façon dont on va dire cette phrase ou la façon dont on va jouer tel texte. C'est plutôt comment créer tout ce qu'il y a en dessous, tout ce sur quoi on va marcher, et avoir cette chose-là solide, parce que tous les soirs, ça va changer. Mais si on a un chemin clair à l'intérieur de nous, peu importe que cette phrase, on l'a dit d'une manière plus rapide ou plus lente, peu importe, parce qu'à l'intérieur, on sait toujours vers quel but on va. Et ça, ça nous permet de pas nous perdre. C'est plutôt ça qu'on fabrique en répétition.
Et vous, comment vous percevez votre propre voix ?
Très mal, je pense.
On s'entend rarement comme les autres nous entendent, mais...
Oui, moi, j'ai, comme tout le monde, j'ai déjà entendu des enregistrements de ma voix. Et j'ai été assez surpris. je me suis dit, ah, d'accord, c'est donc comme ça que je parle. Je perçois pas très bien ma voix, mais c'est-à-dire que moi, en tout cas, de l'intérieur, ce que j'entends de ma voix, c'est une voix plutôt de bel acteur, d'un acteur doué, d'une voix un peu grave, suave, un peu drôle en même temps, un peu tout à la fois, tu vois.
L'acteur parfait. Finalement.
L'acteur parfait, voilà, c'est ça. Quand j'entends ma voix, je me dis si j'aimerais écouter cet acteur jouer, mais je ne peux pas parce que c'est moi, mais j'aimerais m'écouter. Enfin voilà. Et puis quand j'entends pour de vrai, je me dis ah oui, d'accord, donc non, c'est pas tout à fait ça, effectivement.
Et justement, est-ce qu'il y a des voix de théâtre ou de cinéma qui vous ont marqué ?
Des voix de théâtre ou de cinéma qui m'ont marqué.
Dans la vie de tous les jours, peut-être.
Oui, il y a une voix de cinéma qui m'a beaucoup, m'a beaucoup marqué. C'est la voix de Oncle Waldo dans Les Aristochats. Je ne sais pas si
j'ai la référence.
Je ne sais pas si vous souvenez, mais c'est une des trois oies du coup qui est retrouvée dans une cuisine qui s'apprêtait à se faire manger, donc enfin qui s'apprêtait à se faire cuire dans un espèce de repas et qui est récupérée au dernier moment par les deux oies qui accompagnent Thomas O'Malley. Et quand elle sort de la cuisine, Oncle Waldo sort de la cuisine, il est cuit complètement à cause du rosé. Et du coup, il parle avec une... Il a un accent anglais. En même temps, il est bourré.
en même temps, ça grésille un peu dans sa voix.
Oui, ça grésille un peu. Il a le hoquet. Okay, enfin, il y a un espèce de mélange d'un personnage pas possible. Et cette voix m'a beaucoup marqué parce que je me suis dit, bon, là, vraiment, le travail du doubleur, chapeau, parce que vraiment, elle colle parfaitement à l'oie.
Il y a beaucoup de choses dedans. On s'éloigne un petit peu du sujet de la voix, mais est-ce qu'en tant que comédien, il y a des questions qui reviennent et que, le mot est un peu fort, mais que vous ne supportez plus ?
Des mots qui reviennent ?
Des questions.
Des questions qui reviennent sur la voix ?
Pas forcément sur la voix, des questions à un comédien.
Oui, oui, il y a des questions qui reviennent. très souvent, la question qui revient... Et je comprends parce que ça doit être l'école qui nous a fait peur avec ça. Mais la question qui revient le plus souvent, c'est et vous avez mis combien de temps pour apprendre tout ce texte ? c'est une question qui revient très très souvent et c'est une question qui nous fait un peu rire parce que c'est ce qui est étrange, c'est que effectivement on s'en rend plus compte.
C'est pas ça que vous attachez de l'importance.
Non, parce qu'en fait, effectivement, c'est une prouesse, mais parce que c'est vrai que il y a plein de métiers où, en fait, on n'apprend pas des textes, on continue comme ça. Mmh. Et c'est un truc qui remonte à l'école d'apprendre des textes par cœur, d'apprendre des poèmes, enfin, c'est vrai que ça remonte à l'école. Et quand on est sorti de l'école, tout ce qu'on ne veut pas faire, justement, c'est apprendre des textes par cœur. C'est un peu une prouesse d'apprendre tout ça par cœur, mais ça devient vraiment très secondaire, pendant.
Finalement, pour vous, c'est un outil.
Oui, parce que en répétition, on n'a pas toujours le texte. En fait, on l'apprend pas d'un trait. Ça dépend. Tout le monde a sa méthode, mais en vrai, on l'apprend pas d'un trait. On est en répétition. On fait des gestes, on fait des déplacements, et sur les déplacements, on dit des répliques. Et à force de répéter, avec le geste, la réplique revient et on apprend le texte comme ça. En fait, ça se fait très très vite. Et c'est donc cette question qui revient très souvent. Combien de temps pour apprendre tout ce texte ? Moi, je sais qu'en règle générale, je ne peux pas répondre parce que je sais pas combien de temps j'ai mis pour apprendre tout un texte. Ça, c'est à partir du moment où on me l'a donné jusqu'à la fin des représentations.
C'est très variable.
ça m'est déjà arrivé de me rendre compte à la dernière d'une représentation que il y avait une phrase où je disais l'inverse de ce que je devais dire. Et personne ne m'avait jamais rien. J'ai relu le texte là, à la dernière, comme ça.
Ça n'a choqué personne. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a une question que vous aimeriez que l'on vous pose et qui est très rare ou inexistante ?
Ah, c'est une très bonne question. Oui, en fait, j'en ai même plein.
On n'aura peut-être pas le temps pour toutes les questions ce soir.
Non, on n'aura pas le temps, je pense. Mais une question que j'aimerais bien qu'on me pose, c'est... Il y a une question en fait qu'on me pose des fois et que j'aimerais bien qu'on me pose à chaque fois. C'est souvent dans les bords de scène, quand il y a une relation amoureuse sur scène. Très souvent, quand c'est des scolaires, les enfants demandent est-ce que vous êtes ensemble dans la vraie vie ? Et moi, j'aime bien cette question parce que c'est un peu drôle quand même, la barrière entre la fiction et le réel.
Et ça veut dire que ça marche du coup ?
Peu importe que ça marche ou pas, il y a toujours la question quand on regarde des gens sur scène, parce que c'est du spectacle vivant, et c'est pour ça la petite différence quand même avec le cinéma, c'est que quand on voit des gens sur scène en spectacle vivant, on a la possibilité de leur poser la question s'ils sont véritablement ensemble dans la vraie vie quand ils jouent les amoureux sur scène. Et c'est ce truc de se dire, ils sont là en face de moi, ça serait trop bête quand même de pas leur poser la question. Ce qu'on ne peut pas faire à un écran de cinéma.
Est-ce que vous avez un conseil culture de films, pièces de théâtre, albums ce moment ?
Oui. Je vous conseille une pièce de théâtre que j'aime particulièrement qui s'appelle Antoine et Cléopâtre de Thiago Rodriguez. C'est vraiment une de mes pièces de théâtre préférées. Je l'explique un petit peu.
Avec plaisir.
C'est une pièce qui s'est basée sur la relation amoureuse, mais c'est comment on voit comment on voit l'autre dans la relation amoureuse. C'est-à-dire tout ce qu'on voit de l'autre. Et toute la pièce, ça serait comme des didascalies. C'est-à-dire que ça commence avec donc Antoine et Cléopâtre. Il a repris la pièce de Shakespeare, mais il l'a réécrite. Et ça commence avec Antoine et Cléopâtre sur scène face à nous. Et Cléopâtre dit, en montrant Antoine, elle dit Antoine. Et Antoine, en montrant Cléopâtre, dit Cléopâtre. Et après, pendant tout le reste de la pièce, ils vont commencer à parler de ce qu'ils voient. Donc Antoine va dire Cléopâtre respire, Cléopâtre respire, Cléopâtre marche, Cléopâtre se déplace. Et Cléopâtre va faire à son tour Antoine marche, Antoine respire, Antoine expire. Et c'est tout ce qu'il voit de l'autre dans la relation amoureuse. Et alors comme ça peut paraître un peu ennuyeux, on se dit au bout d'une demi-heure, de spectacle comme ça, on se dit bon, ça va être très très long. Et en fait, ce que fait très très bien Thiago Rodriguez, c'est qu'il instaure un code avec lequel il va s'amuser derrière. Et une fois que le public a pu goûter au code et comprendre un peu le système, c'est le moment où lui, il commence à le détourner et à le retourner dans tous les sens. Et c'est là que ça devient jouissif et très amusant à regarder et à écouter.
Merci pour le conseil lecture ou pièce à voir ou à lire ?
À lire, je pense, parce que elle ne tourne plus.
Ah, donc à lire. J'aurais une toute dernière question, mais avant, je voulais savoir quelle était votre actualité, si vous jouez, si vous préparez quelque chose.
Demain, j'ai eu la dernière date prévue, en tout cas pour l'instant, de mes DM Jason à Anglard-Juliac avec la compagnie Vorace. Et sinon, prochainement, tout à l'heure, vous avez parlé de Quito Longue Tardé avec le Théâtre du Rocher. C'est la première pièce d'un triptyque. Et donc, du coup, là, actuellement, avec ma compagnie, on est en train d'écrire le deuxième. Donc, Quito Longue Tardé, c'était la traduction en français, ça veut dire par, loin et longtemps. Littéralement, ça veut dire ça. Et le prochain volet s'appellera Hostes Humani Generis, qui veut dire ennemi commun de l'humanité. C'était ce qu'on inscrivait au fer rouge sur la peau des pirates. Parce que le prochain spectacle, ça sera sur les pirates, sur l'âge d'or de la piraterie.
Donc, et ma dernière question, nous sommes dans un contexte d'élection. On a très peu entendu parler de culture. Et pour vous, quelle importance est accordée à votre métier ? Comment est-ce que vous percevez tout ça ?
Dernière question. Dernière question, c'est un peu compliqué parce que moi je suis pas un grand spécialiste de la politique. Enfin, j'ai pas suivi tout ce qui s'est dit dernièrement sur la culture. Disons que ce que moi j'entends, en tout cas, dans le plus grand nombre des personnes avec qui je discute et quand on me demande ah mais t'es comédien, t'es artiste, ce que j'entends la plupart du temps c'est soit d'une manière amusée, soit d'une manière un petit peu cynique, que les artistes ont vie un peu sur les impôts ou sur les revenus des autres. Et en tout cas, il me semble pas. C'est quelque chose dont, enfin, la culture, faut pas croire que c'est quelque chose qu'on nous donne comme un petit jouet comme ça qu'on met de côté et puis qu'on se dit oh bah tiens mais amuse-toi bien avec ça et puis qu'on le garde de côté pour faire plaisir aux artistes. C'est quelque chose de vraiment important, je pense que si on passait une année entière sans une seule pièce de théâtre, sans un seul film, sans une seule nouvelle musique, sans aucun tableau, aucune photo ou que sais-je encore, je pense qu'une année entière comme ça, beaucoup de personnes seraient déprimées, si ce n'est tout le monde.
Le confinement avait été très rude d'ailleurs.
Mais oui, c'est vraiment pas une blague, hein, qu'on a besoin de l'art et de la culture. Ça, c'est vraiment quelque chose qui fait du bien, même aussi infime soit-elle. Donc c'est pas un truc avec lequel on nous laisse nous amuser. C'est quelque chose de très important. Et n'en déplaise à beaucoup de gens, en fait, on ne vit pas sur les impôts. On vit avec nos revenus et nos propres cotisations et on fait pas mumuse dans notre coin.
Et c'est important. On espère que le message passera. Avant de vous quitter, je me permets un petit mot et cet extrait en hommage au fabuleux acteur qui était Michel Bouquet, qui nous a quittés le 13 avril dernier.
Si je décidais de ne pas mourir, si je décidais de ne pas mourir, si je décidais de ne pas me décider.
Si je décidais de ne pas me décider. Michel Bouquet dans Le Roi se meurt, et malheureusement, le roi Michel Bouquet est mort. Merci à vous toutes et tous qui nous avez suivis. Johan, merci encore d'avoir été présent aujourd'hui. Merci à Tiffaine Lemaine pour la technique. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission ainsi que toutes les autres sur le site espritoccitanie.fr ou sur l'application. Pour ma part, je vous souhaite une très agréable soirée. Je vous laisse en compagnie de Raphaël et Pomme et leur chanson « Le train du soir ».
Je ne sais pas ce que je ferai quand je te verrai. Je ne sais pas ce que je ferai, mais je ne pleurerai pas. Je ne sais pas ce que je ferai quand je te verrai. Je ne sais pas ce que je ferai, mais je ne pleurerai pas. Je ne pleurerai pas. Le train du soir file vers toi, file vers toi. Du vent dans les cheveux et le bruit des essieux, nos souvenirs qui sont en feu. Le train du soir file vers toi, derrière les montagnes, le dernier ferry pour le paradis. La compagnie, les soldats du corail qui boivent, qui chantent et qui déraillent. Qui déraille, qui déraille, qui déraille. Je ne sais pas ce que je ferai quand je te verrai. Je ne sais pas ce que je ferai, mais je ne pleurerai pas. Je ne sais pas ce que je ferai quand je te verrai. Je ne sais pas ce que je ferai, mais je ne pleurerai pas. Je ne pleurerai pas.
Le train du soir file vers toi, sans direction, sans chauffeur. Derrière le moteur, j'entends battre ton cœur. Le dernier ferry pour le paradis. La mer se retire cette nuit.
Je ne sais pas ce que je ferai quand je te verrai. Je ne sais pas ce que je ferai, mais je ne pleurerai pas. Je ne sais pas ce que je ferai quand je te verrai. Je ne sais pas ce que je ferai, mais je ne pleurerai pas, mais je ne pleurerai pas,
mais je ne pleurerai pas.